Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Bon, salut à tous, salut à toutes, merci d'être là, merci Gaspard de venir dans mon émission, ça me fait plaisir. Gaspard, ça fait un petit moment que je te suis depuis que t'es tout petit. Enfin, en vrai, t'es très grand, hein. tu fais quoi, 1m95, t'étais immense.
Ouais, c'est ça.
Mais depuis que t'es tout jeune, alors on va dire, où je te suis depuis un petit moment, parce que tu sais, et notamment sur Mad, à l'époque, moi je suivais un petit peu les jeunes qui en voulaient, quoi, tu vois. Et je t'avais vu percer, notamment à l'époque sur Facebook, puis après sur YouTube, t'avais lancé, bon, tu vas m'expliquer ça un petit peu après, mais c'est trop marrant de te voir, de t'avoir vu comme ça, et on s'est rencontrés pour la première fois IRL cet été, ça m'a trop fait plaisir de te rencontrer, c'était cool.
Moi aussi.
Et je t'ai proposé de venir. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Gaspard ?
Écoute, moi, mon cher, mon bon Fab, déjà, ça me fait bien plaisir, je suis obligé de le dire. Je sais pas comment expliquer, mais il y a des, tu vois, j'ai des espèces d'achievements comme ça, où je me clappe quand mon mois de 15 ans. Oh. Là aujourd'hui j'en ai 22, et mon but un jour c'était, non mais c'est vrai, tu fais partie des gens sur internet qui, en tant que patron de médias, mais à la fois podcasteur dans vraiment des, tu vois, des domaines qui moi me bottent depuis que je suis gamin. Faisait partie des personnes que je voulais rencontrer absolument avec ce rêve de d'un jour arriver à Paris. Et donc ça s'était fait plus vite que prévu, et j'étais trop content également de te rencontrer cet été. Alors moi je suis un créateur de contenu, c'est ça le terme, je suis youtubeur, podcaster, un peu youtubeur en stand-by pendant 4 ans parce que j'ai fait des études à Montréal. Et puis là je reviens à partir de janvier, mais j'ai un podcast depuis 2 saisons déjà, d'actu, voilà.
Mais alors, qu'est-ce que vous faisiez exactement avec les potos là, à l'époque, à la grande époque des vidéos Facebook ?
Ah, et au moment de Facebook, ouais, c'est ça, mais c'est parce que j'essayais de faire un peu court, mais au moment de Facebook.
On a le temps.
Ouais, c'est vrai, j'oublie le concept de live. C'est le mec, ça dure une heure. Hein. t'as le temps.
Pas sur un TikTok, t'inquiète.
Ouais, c'est ça. Bon, TikTok, c'est pas encore ça, mais. Non, en fait, moi, j'ai fait des vidéos sur YouTube pendant 2-3 ans, principalement quand je vivais aux États-Unis, parce que j'ai un peu bougé. J'ai fait France, États-Unis, Canada, et là, retour à Paris, parce que c'est là que j'ai envie de bosser dans cet univers des médias-là, qui m'intéresse particulièrement ici en France. Mais ouais, du coup, je partageais un peu mes aventures sur YouTube quand j'étais aux États-Unis. J'avais vraiment cette étiquette-là du gamin, enfin de l'ado qui évoluait dans un lycée aux States, et puis aussi au Canada par la suite. Et justement, c'est quand j'étais au Canada, il y avait l'émergence un peu de Facebook Watch, et j'ai tenté des formats beaucoup plus courts. Et il y a une ou deux vidéos qui ont très bien marché. C'était vraiment le début des vidéos sur Facebook où Facebook mettait vraiment beaucoup, beaucoup l'accent sur ce genre de truc. Tu mettais 10 dollars de paid, tu faisais 500 000 vues, c'était... c'était dingue. Non mais et oui, et du coup tout ça s'est transformé en un média que j'ai fait pendant un an et demi, qui s'appelait Flick, et qui se voulait être un média qui explique. C'était à peu près la même ligne édito que fait ce que fait notre ami Hugo Décrypte aujourd'hui, expliquer l'actu, y mettre du contexte. D'ailleurs c'est un peu, je suis jamais trop parti de cette mission là dans ma création de contenu. Même dans ce live, je compte bien te parler d'une nouvelle manière de raconter l'actu à travers Marocco.
Waouh!
Wow. J'ai essayé de faire du lien jusqu'au bout.
Ça en impose. Trop bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être là. C'est cool de t'avoir. Je vois qu'il y a des gens dans le chat qui te connaissent pas et qui te découvrent. Ça me fait plaisir parce que je pense que tu gagnes à être connu. Tu fais aussi, et ça tu l'as pas précisé, il faut que tu apprennes à faire ta promo, mais en fait tu fais aussi un podcast avec avec ton camarade
Greg.
Ton camarade Greg qui est à Montréal toujours.
Exact. Ouais, c'est ça. J'ai un podcast qui s'appelle Absurde et Acerbe, qui est un bimensuel. Donc, toutes les 2 semaines, un lundi sur 2, on prend la parole pendant 1 heure. On parle d'actu, on parle de culture, on parle de sujets de société. On aime bien la politique, mais pas que. On parle Là, récemment, là, on a enregistré hier, on parle de violences policières, on parle de nouvelles, voilà, de nouvelles œuvres qui nous ont culturelles, qui nous ont plu, avec des jeux d'actu, des répondeurs. Voilà, on essaie de créer un truc un peu interactif. Mais on est des bébés à l'échelle du podcast par rapport à toi. Écoute, on découvre encore là. On est sur des prémices.
Bah, il faut toujours commencer quelque part. En tout cas, moi, je trouve que vous avez, je trouve que, enfin, moi, j'écoute le podcast. Moi, je trouve que c'est cool parce que vous avez des angles qui sont intéressants. Vous parlez de politique et d'actu, toujours avec des angles. Là, vous aviez parlé dans le dernier épisode, si je me trompe pas, des débuts de Mélenchon, enfin, de Mélenchon sur Instagram.
Ouais, exact.
Et je trouve que c'est intéressant de vous entendre. Avec votre regard de jeune citoyen, n'est-ce pas, commenter l'actualité politique, quoi. Donc je trouve ça vraiment cool.
Tu vois, juste deux secondes par rapport à ça, c'est que vraiment, l'information est tellement dense, particulièrement en politique. Il y a 1 milliard de manières orientées de prendre une actualité. Ce qui nous intéresse justement, voilà, c'est ça, c'est de la prendre un petit peu par un autre angle. Et puis il y a cette force aussi qu'on a depuis la saison 2, parce qu'en saison 1 j'étais à Montréal avec Greg, cette fois-ci moi je suis à Paris, lui à Montréal, et on lit pas la même presse. Force est de constater que les mentalités sont différentes dans toute la francophonie. Je pense à l'affaire triste de Samuel Paty, ce professeur voilà, tristement disparu aujourd'hui, mais qui l'affaire n'a pas été du tout saisie de la même manière dans les médias anglo-saxons, donc canadiens, et dans les médias francophones. Ils ont été beaucoup moins cléments envers le sort du professeur. La réaction de Trudeau et d'autres, d'autres politiques canadiens est assez marquante. Ouais.
Parce que, bah, juste pour remettre un peu de contexte, mais en gros, Trudeau, il a dit, en gros, il ne fallait pas déconner avec les caricatures, quoi, c'est ça ?
C'est exactement ce qui a été dit. Et du coup, c'est un peu, en plus de ça, c'est déceptif, tu vois, parce que c'est un allié français, etc., sans entrer dans trop de la politique pure et dure. Mais c'est, ouais, exact.
Ok. Exact. Écoute, si tu veux bien, passons
à ma reco.
À ta reco.
À ma reco. En vrai, j'ai essayé de trouver un angle un peu, voilà, encore une fois un peu différent. Mais non, moi, écoute, Fab, je voulais te parler aujourd'hui, te recommander à tes. Alors, c'était quoi le nom de ta communauté? J'ai pas suivi le dernier nom qui a été donné.
J'ai pas tranché parce que vraiment je sais pas comment faire pour trancher. Il y a Mimi qui a proposé les Fab de La Fontaine, ce qui est vrai.
C'est, ouais, moi j'aimais bien celui-là. J'aimais bien. C'est pas mal.
Mais non, je ne sais pas. Et c'est un gros problème. C'est un vrai problème. Tu vois, il y a Poki là dans le chat qui dit les Fabulous, mais c'est pareil en fait. C'est pas très. Je préférais les Fabolos en fait parce qu'il y a un côté où on se prend pas vraiment au sérieux. Fab de La Fontaine, je pense que. Il faut suivre, tu vois.
Ouais.
Mais bon, c'est voilà, je ne sais pas. Merci en tout cas, Poki, pour ta petite intervention.
Ta proposition.
Donc dis qui tu veux. Tu peux dire à ton public, n'est-ce pas?
Ouais. Ben bon, en tout cas, Fab, et à ton public, je voulais te proposer, moi, qu'on parle un peu aujourd'hui de slow journalism, du journalisme lent. Qui est, ça peut sembler un peu chiant de prime abord comme ça, sauf qu'en fait ça part d'un constat simple, c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup beaucoup d'informations, que tout le monde est expert en tout, donc finalement personne n'est expert en rien, et à travers des œuvres, et donc là en l'occurrence je voulais te parler de BD de Mathieu Sapin. Je te montre parce que tu vois, je t'avais dit, hein, j'ai préparé ma petite BD. Je sais pas si ton audience connaît Mathieu Sapin, mais c'est.
Il faut que tu l'aimes un peu plus vers toi parce que
là,
je t'ai coupé.
Pardon.
Encore
là,
plus. Ah oui. À ta place. Voilà. Mets-le devant toi. Comme ça.
Bon,
voilà.
D'accord, très bien. Vous m'entendez plus, mais au moins vous avez la BD.
C'est la BD sur Gérard Depardieu, celle-ci.
Exact. Celle-là, elle s'appelle Gérard. Il y a eu. Dans les coulisses de Hollande également, dans les coulisses de Macron très récemment, qui s'appelle Comédie Française. C'est assez passionnant et en fait on suit ce journaliste, ce BD reporter qui a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision, qui ne sait rien en fait de prime abord dès les premières pages de son livre, et c'est un peu comme une espèce de voyage initiatique, tu vois, un peu à la Disney, où il va découvrir un univers, une fois le monde de la politique avec Hollande ou Macron. le monde du théâtre à travers Racine, le monde du cinéma et des acteurs vedettes comme Depardieu. C'est super intéressant, c'est super pertinent, je trouve, de donner un peu plus de voix, tu vois, à ces œuvres-là, surtout dans une ère où aujourd'hui, on pense de moins en moins, j'ai l'impression, ou du moins on a de l'information qui est parfois déjà prémâchée pour nous. Surtout quand on est jeune, en fait, quand on voit, bah, encore une fois, je vais le reciter une deuxième fois, mais ce que fait Hugo Décrypte aujourd'hui pour les 18-25, on va dire, ou 18-30 ans sur Insta. Les gens veulent consommer de l'information de manière très rapide, sans pour autant nécessairement avoir une vraie perspective de ce qui se fait autour, des vrais enjeux qu'il peut y avoir. Du coup, moi, j'aime bien. Je trouve que c'est du journalisme hyper honnête. En fait, tu te fais l'idée que tu veux t'en faire. C'est très très cool. Je sais pas. En fait, j'ai pas envie de monopoliser la parole et de pas
te laisser dire sur ce que je dis. Parle.
Non, mais tu vois, on en parlait.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas journaliste en plus, Mathieu Sapin. Il est auteur de.
C'est ça.
Il est auteur de BD. Donc, il fait un reportage. Ce qu'on pourrait dire quelque part c'est pas forcément objectif en fait la façon dont il le met en scène, mais il montre tout simplement ce qu'il voit, quoi, avec beaucoup de
d'humilité, de transparence,
de candeur un peu aussi.
Ouais, exact, c'est le mot en fait que c'est le mot littéralement que je voulais. Non, et puis il y a aussi Guy Delisle qui est un autre auteur pour le coup, un franco-québécois, enfin un québécois de base, un canadien, Guy Delisle, qui a fait deux types de BD, on en parlait un peu juste avant. C'était, il a fait ses BD où il se balade à Pyongyang là, tu vois, il y a chronique ici. Alors attends.
Voilà, chronique de Jérusalem.
Chronique de Jérusalem, Pyongyang, où en fait sa femme est. Alors toi qui l'a interviewé, peut-être que tu auras peut-être plus de finesse que moi sur ce que je veux dire. Sa femme est expat, mais plus elle bosse pour une ONG, je crois. Et le voyage.
Ça c'est pour Chronique de Jérusalem, je pense, mais sur ouais. C'est Pyongyang.
Sur Pyongyang, c'est lui qui dirige un dessin animé. Voilà. Exact. Oui, tu as raison. Donc en fait, ça dépend des œuvres, mais c'est un expat. C'est un expatrié. On le suit dans sa vie d'adulte expatrié qui tantôt va aller. Parce que j'ai envie de raconter cette anecdote sur Pyongyang.
Vas-y.
Il y a ce truc qui est assez génial avec sa BD Pyongyang, c'est qu'il raconte en fait que donc ça se passe à la fin des années 90.
Pyongyang, pour resituer, mais c'est en Corée du Nord.
Oui, exact. Donc c'est
un pays un peu particulier.
Et d'ailleurs ça l'était un peu moins à la fin des années 90. C'est ce qu'il raconte en fait. Et en fait on le suit en tant que directeur de projet d'un dessin animé, donc il va et en fait. J'adore le raconter, mais c'est ce truc où il y a les dessins animés français, il y avait énormément. D'ailleurs, ça avait fait. J'étais pas né, mais il y avait ce truc où Ségolène Royal disait sur les plateaux de télévision, ça va pas du tout, c'est manga, faut produire des dessins animés français, etc. C'est comme quoi ça abrutissait la jeunesse selon elle, etc.
Il y avait tout un truc où Dorothée, qui passait à l'époque le club Dorothée sur TF1 et qui passait effectivement énormément de dessins animés, souvent des dessins animés assez violents, quoi, notamment Ken le Survivant, qui était un peu hardcore, qui était pas mal censuré. Ils étaient vraiment pointés du doigt, alors par le gouvernement, mais aussi par les associations familiales, tout comme il y a pu avoir un peu plus tard, le jeu vidéo va rendre tous nos enfants ultra-violents et va faire de nos enfants des terroristes. À l'époque, c'était un peu le manga qui était pointé du doigt, quoi, effectivement.
Exact. Le manga et l'animé, là, en
l'animé, pardon, oui, c'est pas le manga, oui.
Et c'est la raison pour laquelle Guy Delisle va à Pyongyang, c'est pour diriger une équipe. Et en fait, il raconte que, un dessin animé, c'est quoi? C'est 24 images par seconde, ou plus ou moins, peut-être légèrement moins, mais que les images fixes que vous voyez dans Dragon Ball, dans Totally Spies, qui est d'ailleurs produit à moitié, dans ces dessins animés, mais c'est que les images où ils sont fixes, les très beaux dessins, du coup, sont réalisés en Europe, en France, mais si la sous-traitance et la mondialisation, c'est dans tous les secteurs, c'est que à partir du moment où il y a du mouvement dans l'image, d'ailleurs, tu fais des arrêts sur image, la gueule, elle est affreuse, etc. C'est justement sous-traité avec de la main-d'œuvre qui coûte moins cher dans d'autres studios d'animation. Et c'est exactement la raison pour laquelle Guy Delisle est muté là-bas à Pyongyang pendant quelques mois, et on suit justement son aventure là-bas. Je trouve que ça en dit tellement plus qu'un un reportage de 2 minutes sur un JT TF1 sur Pyongyang, tu vois, tu en apprends tellement, c'est génial, je trouve.
Est-ce que tu as lu aussi Shenzhen?
J'ai pas lu Shenzhen. Okay. Toi, tu as lu?
Non, je crois pas. C'est pour ça que je te lançais dessus parce que j'avais pas lu. C'est juste, j'ai souvenir que Pénélope Bagieux, à l'époque, on faisait des chroniques en BD, enfin des chroniques de BD sur Mademoiselle en vidéo. Pour les gens qui savent pas, c'était moi derrière la caméra. Hein, donc c'est moi qui bois les paroles de Pénélope. Mais je me souviens que Pénélope à l'époque en avait parlé. D'ailleurs, elle avait fait une double revue. Donc je vais vous la mettre. Elle avait fait à la fois Shenzhen et Pyongyang. Ouais. Donc c'était en 2009. Hein. Laisse-moi te dire que c'était pas hier.
Qu'il faut aller chercher le truc. Ouais. Non mais c'est assez génial, je trouve. Et de ça, tu vois, aujourd'hui même on retrouve un peu. Attends, mais il y a aussi ce truc. Je sais pas. Tu as lu S'enfuir, toi?
Non, je l'ai pas lu non plus. Mais oui, parle de ça, c'est cool.
Bah, S'enfuir, c'est le récit d'un otage, qui s'appelle Christophe André, qui se fait kidnapper et qui est membre d'une ONG médicale dans la région du Caucase et qui se fait kidnapper. Et donc, vous voyez, c'est quand même un pavé. Hein. Je sais pas si on peut bien montrer, mais tu vois, c'est un délire, quoi. Il y a 450 pages de BD, dont 300 où il est quand même attaché à un radiateur. Et ça reste passionnant, quoi. Tu suis le truc, la vie de cet otage qui est kidnappé et qui voilà, va finir par s'enfuir puisqu'il va, c'est pas un spoil, puisqu'il finit par raconter son histoire. Donc c'est que il était là pour la raconter. Et c'est génial, ça en dit tellement sur la région, sur le risque que prennent aussi ces ONG. C'est une nouvelle forme de documentaire, de manière de raconter l'info, et je trouve que c'est important de la pointer du doigt.
Voilà. Et dans S'enfuir, c'est lui, enfin c'est l'otage donc qui vient raconter à Guy Delisle pour le coup.
Ouais. Exact. Okay. Mais ouais, exact, c'est ça, la plupart des œuvres de Guy Delisle, c'est lui qui découvre un peu toujours avec c'est le mot que tu as trouvé qui décrit le mieux, je trouve, ces nouvelles œuvres de BD, c'est la candeur. Vraiment cette position de voilà, je ne sais rien et je vais en découvrir plus et avec vous. Et donc Guy Delisle, c'est plutôt des comics, enfin c'est des strips, enfin c'est des comic strips, c'est comme ça que je sais pas comment on dit, mais il y a beaucoup d'humour dans ce que fait Guy Delisle, un peu moins dans S'enfuir du coup. Et dans Mathieu Sapin, c'est plus il y a toujours beaucoup d'autodérision, énormément de détails, et c'est assez génial de retrouver ça. Puis d'ailleurs ce que je te disais également, c'est que on retrouve un peu cet héritage là aujourd'hui. Ça fait peut-être 15 ans, 10, 20 ans qu'écrit Guy Delisle.
Ouais.
Je crois que c'est ça.
Ouais,
c'est aujourd'hui, on retrouve là la maison d'édition d'Argo qui sort cette BD. Troisième BD que je vais montrer à l'écran.
Voilà.
La maison ronde. Et j'ai l'impression d'être. Je sais pas si tu regardais Télématin. Moi, je regardais Télématin quand j'étais petit. Et il y a toujours Laura du Web ou une chroniqueuse. Qui venait pointer du doigt comme ça une BD qui a ramené. Bon, écoute.
Je pense que Télématin, ça existait déjà quand j'étais petit.
Je crois que c'est l'une des plus vieilles émissions du PAF.
Sans doute.
Ça et.
Et Michel Drucker.
Michel Drucker.
À lui seul.
Exact, putain. on l'aime, Michel Drucker.
De quoi ça parle Maison Ronde? Raconte.
Bah, Maison Ronde, c'est les coulisses de Radio France. Donc, Maison Ronde, c'est cet énorme bâtiment qui est l'ancien bâtiment de l'ERTF. Le RTF qui est la radio et la télévision, mais qui est il y a cette phrase, j'ai envie de parler de cette phrase de OSS 117. Je sais pas, t'es un grand fan, pas du tout?
Oui.
Oui. Comment appelez-vous un pays qui n'a qu'une télé et qu'une chaîne de télévision dirigée par l'État? La France, madame. La France du général de Gaulle. Et c'est vraiment ce truc-là. C'est Maison Ronde, c'est le. L'ancêtre, c'était l'ORTF. C'est ce grand bâtiment un peu vétuste qu'on peut trouver. C'est quoi? C'est dans le 16e? Je suis nouveau parisien, donc je sais pas trop.
C'est vraiment à la sortie de. Je t'avoue que je sais pas. Je pense pas.
C'est en bas à gauche.
C'est à la sortie de Paris, en fait.
Ouais, c'est
vraiment
ça.
C'est à l'extrémité, effectivement, à l'ouest de, au sud-ouest de Paris.
Ouais, c'est ça. Et donc là, on découvre pareil. Enfin, c'est un héritage assumé. Cet auteur de BD qui s'appelle Charlie Zaneyo et qui, pareil, avec toute cette candeur, ce sera vraiment le maître mot de cette reco, mais qui nous fait visiter cette maison ronde France Inter, mais aussi pas que, tu vois, on apprend que les archives de France Culture, etc. C'est fou, c'est vraiment j'ai appris plein de trucs à travers cette BD, tu vois, et ça m'a vraiment fait voyager, ça m'a appris beaucoup sur le paysage aussi médiatique et radiophonique français qui est riche en soi, qui est très très riche. Voilà, je fais un peu le tour de mes recos.
En fait, c'est marrant que c'est drôle que tu parles de, que tu t'as démarré par parler de slow journalism, tu vois, pour parler de ça, parce qu'en fait, pour moi, je suis d'accord avec toi, c'est des documentaires, mais c'est pas des reportages en soi, c'est-à-dire que pour moi, ils viennent justement avec un point de vue candide, et souvent, je pense que les journalistes qui viennent sur un reportage, ils ont déjà en tête le truc qu'ils ont envie de faire, tu vois, c'est assez rare qu'ils viennent un peu tout nus et qu'ils se disent, ok, je vais aller voir ce qui va se passer. Donc, je pense aussi que malgré l'objectivité qu'on demande aux journalistes, c'est un truc qui est très difficile à avoir, en fait, c'est parce qu'on est tous des êtres humains, et t'as beau vouloir montrer la réalité d'une façon la plus objective possible, quoi qu'il arrive, le simple fait que tu décides de pointer ta caméra comme ça ou comme ça, en fait, bon, après, je caricature vraiment, tu vois, mais ça change vraiment l'angle de vue. Et donc, c'est intéressant parce que je pense justement que quand Mathieu Sapin se pointe comme ça avec son carnet à l'Élysée et qu'il vient écouter ce qui se passe, il vient sans aucune arrière-pensée, en fait. Je trouve que c'est hyper intéressant en soi, ouais. ces documents-là, par rapport à, je ne sais pas, tu pourrais mettre dans le même, comment dire, au même endroit Edwy Plenel et Mathieu Sapin, si tu veux, ouais. On n'en ressortirait pas forcément la même chose, quoi.
Non, bien sûr, ouais.
C'est déjà
sûr.
De base, parce que lui observe, je pense. Il vient juste. Il parle pas, quoi, tu vois.
Il observe et il ajoute, il annote par la suite. Exact. Mais du coup, je trouve que c'est quand même très intéressant, en effet, de ce. Ouais, je sais pas, moi, je suis d'accord. C'est peut-être à mi-chemin entre le journalisme qui prend son temps et vraiment. Comment on pourrait appeler ça? Je sais même pas. Le documentaire. Neutre, vraiment neutre. Non, mais je sais pas. Parce que j'ai envie de faire un parallèle peut-être un peu foireux. Donc, écoute, en plus, on est en live.
On peut se tenter.
Et c'est ce truc où, tu vois, le daily vlog, ce qui se fait beaucoup sur YouTube, etc. Enfin, ce qui se faisait beaucoup sur YouTube en 2015, mais qui continue d'exister. Je pense à ce vlogueur, ce YouTuber-là qui s'appelle Casey Neistat aux États-Unis, mais le vlog de manière générale, c'est. Ça raconte quand même. Il y a une manière de se mettre en scène, de raconter les choses qui est différente et qui, en fait, je pense vraiment à ce mec-là qui s'appelle Casey Neistat. Donc, si vous voyez pas qui c'est un YouTuber ricain qui a des grosses lunettes et qui habite à New York pendant 2 ans. C'est vite résumé, mais c'est un peu ça. Je sais pas.
Bah, le mec est réal à la base. Il est réalisateur. Ouais. Et surtout pour moi, il s'est fait connaître parce qu'il a été l'un des premiers à lancer cette idée de daily vlog, en fait. Parce que je pense qu'avant lui, il n'y avait pas grand monde qui se disait « bah ok, je vais faire un daily vlog ». Et surtout, il a amené une patte de réel qui est assez particulière, quoi. Mais c'est vrai que de ce fait-là, si tu reprends ces podcasts, ça pourrait être un vrai truc à faire, reprendre tous ces podcasts depuis 2015. Je ne sais plus quand est-ce que c'était la première fois qu'il s'est lancé comme ça.
C'est ça, 2015 à peu près.
Tu dois avoir toute sa life depuis longtemps, quoi. Meilleur résumé de Casey.
Non, ouais, mais c'est vrai, en vrai, c'est...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra.
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est et lui, c'est, je prends en ce moment, je réfléchis beaucoup à comment je veux axer ma création de contenu dans l'année prochaine, tu sais, en 2021. Et c'est un des mecs qui m'inspire le plus parce que ce qu'il raconte, c'est I use very precise. En fait, il disait, je suis pas le premier à faire du vlog, mais j'étais le premier à utiliser des very precise cinematographic skills, donc des skills cinématographiques, donc vraiment des angles très précis, des machins, etc. Ou vraiment se mettre en scène. C'est-à-dire que le mec, en fait, si vous voyez pas ce qu'on veut dire, le mec marche une rue, il s'arrête 8 fois dans la rue pour marcher et reprendre le plan juste pour qu'il ait des plans différents avec son Canon 80D.
Et parce qu'il filme tout seul en plus. Donc
ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est en fait un exercice hyper intime, mais à la fois une nouvelle manière de raconter, de raconter sa vie, de laisser une trace en tout cas.
Après, je trouve que l'un des trucs forts chez Casey Neistat, c'est que quasiment tous les jours, il arrivait à raconter une histoire. C'est-à-dire qu'il y avait souvent un début, un milieu et une fin. Où en gros, il arrivait à reboucler l'intégralité de son vlog. Enfin voilà, je trouvais ça assez fabuleux parce que c'est en ça pour moi qu'il dit qu'il est réel, c'est-à-dire que le mec vient raconter une histoire chaque jour en vidéo, quoi. Je sais pas ce que t'en penses.
Exact, ouais. Ouais, si, c'est exact. Et c'est ce que fait aussi en France aujourd'hui, c'est une des grandes inspirations qu'il y a ici de ce que fait Lena Situation. C'est juste pour un public féminin un peu différent, pas féminin, mais sa cible principale, c'était quand même, elle parlait de mode, etc., donc c'était un peu plus girly que ça l'est de moins en moins d'ailleurs. Aujourd'hui, elle doit avoir une audience renouvelée et beaucoup plus mixte, mais la manière dont elle raconte les choses, son storytelling qui est très fort, et ce qui a fait d'ailleurs l'immense majorité du succès de Lena Situation, enfin c'est un des facteurs clés en tout cas, c'est justement cette manière de se raconter là et de storyteller sa journée et sa vie.
Est-ce que tu as vu The Newsroom?
Je l'ai pas vu. J'ai essayé de m'y mettre, j'ai pas réussi.
Non.
Mais je sais pas, après il y a beaucoup de
toi.
Non, mais peut-être que c'est, tu sais, il y a quand même ça des séries auxquelles tu accroches pas du tout, non, mais disons qu'il y a du contexte, tu vois. Je sais pas si tu as vu Sex Education, toi?
Si, ouais.
Et bah tu vois, typiquement, je l'ai vu seul. Un premier épisode, je me suis fait super chier. Je l'ai revu en confinement. On était 5 potes autour d'un feu à regarder ça et à se remémorer nos années lycée. Donc, c'était pas il y a si longtemps, mais le mec, il parle comme un vieux con, il a 20 piges. C'était il y a 3 ans. Il y a 36 mois. Mais non, et vraiment, j'ai pas vécu du tout de la même manière, tu vois. Le contexte dans lequel tu dégustes une œuvre, c'est pas du tout.
Donc. Maintenant que tu m'as parlé de slow journalism et de faire en sorte d'offrir de l'information la moins... en plus, c'est un peu injuste parce que t'as parlé d'Hugo Décrypte, mais je pense qu'Hugo Décrypte, il fait un truc très particulier sur Insta où justement, il donne un peu du crunch, ce qu'on appelle de l'information à croquer, quoi. Mais à côté de ça, il fait des vidéos, il va faire des vrais reportages. Enfin, là, il était chez Trump. Il était aux US pour couvrir des conventions, etc. Donc, il fait des reportages un peu plus long, quoi.
Ah oui, non, bien sûr. Non, mais je disais ça sur l'aspect, tu vois, Insta, ce qu'il propose en Instagram, et c'est d'ailleurs ce qui fait son succès aussi, c'est d'être concis et de tout faire en 150 caractères.
Donc, je t'invite à re-regarder peut-être cette série qui n'est pas nouvelle du tout, qui date de 2012 en vrai. Donc, ça fait un bail qui s'appelle The Newsroom ou alors Salle de Nouvelles au Québec, parce que c'est comme ça. C'est, hein, voilà.
Tu sais, mais moi, je les ai bouffées pendant 5 ans comme ça, hein, les séries.
Bah oui, bien sûr. Qui est créé par Aaron Sorkin, je ne sais pas si tu connais.
Ça me dit un truc parce que j'écoute.
C'est le mec qui a fait le film, son truc le plus connu, c'est le film qui a fait le film The Social Network sur Facebook.
Ah, c'est lui. Je pensais que c'était David Fincher.
Attends, c'est peut-être David Fincher. Attends. Aaron Sorkin. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Si, c'est ça, non?
Je crois que c'est Fincher, The Social Network.
C'est peut-être. Attends, qu'est-ce que je raconte?
Oh, je te laisse vérifier.
Non, c'est sûr. Non, ça, enfin, oui, pardon. Il est scénariste. De The Social Network.
Oui.
Mais tu vois, disais bien qu'il était là-dedans. Okay. J'ai été perdu 2 secondes. Il a aussi fait une autre série qui est un peu plus vieille, qui s'appelle The West Wing, qui est où il montre les coulisses de la Maison Blanche pendant 7 saisons, je pense. Donc 2 mandats. Merci Grizzly, c'est effectivement le scénario. Les gens me reprennent sur le chat. Ils sont au taquet. Et donc, il a fait The West Wing, qui montre les deux mandats d'un président démocrate. Et il a pas son pareil pour réussir à mettre en scène des gens brillants, parfois peut-être un peu qui peuvent paraître un peu casse-couilles au premier abord, mais qui d'un autre côté, où il est capable de venir mettre au sein du scénario, il gave le scénario d'informations hyper utiles pour le spectateur, sans que ça fasse court, tu vois, sans que ça soit, sans que ça fasse didactique. Donc, bah d'ailleurs, il y a des fans. Il y a des fans de The West Wing meilleure série. Bah oui, bien sûr, The Newsroom meilleure série, of course. Et donc en fait, Newsroom, c'est l'histoire d'un mec qui serait une sorte de PPDA, tu vois, en France, pas très populaire d'avoir, qui dans les premières minutes de la série pète un peu un plomb dans une conférence dans une université où t'as une petite meuf toute sympa qui vient lui demander: est-ce que vous pouvez nous dire en quoi les États-Unis sont le plus beau pays du monde, quoi, le greatest country in the world. Et en fait, ça le saoule parce que il est incapable de donner une réponse toute blanche, toute noire, si tu veux. Donc, il donne à la fois une réponse assez honnête, mais dans un discours, dans une diatribe géniale, qui bien sûr tout le monde le filme. Et à la fin, en fait, il se fait clasher sur les réseaux, notamment parce qu'en fait, il clash la meuf qui lui dit: mais en fait, c'est une question complètement absurde. C'est pas possible de poser cette question-là. C'est beaucoup plus compliqué que ça. S'ensuit toute une sorte de... Justement, il appelle ça Mission to Civilize. Donc, il est un peu dans cette idée de... En gros, le mec était un peu à la traîne parce qu'il voulait faire en sorte de plaire à tout le monde, si tu veux. Ouais. Et il en a un peu plein les bottes de faire ça. Un peu comme... Enfin, tu vois, je pense un peu comme PPD aussi, dans ce truc très consensuel où finalement, il finit par recevoir des invités qui laissent parler alors qu'il pourrait les reprendre, il pourrait un petit peu les asticoter, quoi. Et il les laisse tranquilles. Et donc, il se lance dans une mission to civilize, comme il dit, et de refaire de la vraie info, quoi.
Ouais.
La série est assez courte, c'est 3 saisons d'une dizaine d'épisodes, mais c'est brillant parce que en gros, ce que fait Sorkin, c'est qu'il reprend la vraie actu un an auparavant. Donc t'as des vrais trucs. Le premier épisode, c'est un épisode où je sais pas si tu te souviens de la marée noire qui a eu lieu en 2011 au large de la Louisiane, là, avec cette fameuse plateforme pétrolière qui a explosé.
Ouais, ça me dit un truc. Ouais.
Ils en ont fait un film avec Mark Wahlberg, d'ailleurs, un film catastrophe. Mais en fait, il traite l'information dans son journal télé au sein de la série, comme si il l'avait traité s'il avait été rédac chef du JT, quoi.
Okay.
Et ça dure comme ça pendant 3 ans. Et l'un des trucs intéressants aussi, c'est que il y a en général, notamment la deuxième saison, il y a tout un fil rouge, en fait, où ils expliquent comment ils font pour faire une enquête en long, en large et en travers. Enfin, c'est hyper bien foutu. Les personnages sont attachants et t'as envie parfois de leur mettre des claques, mais en fait, c'est ce qui fait aussi qu'ils sont attachants. Et en fait, la série est brillante. Vraiment. C'est ouf parce que le mec, donc, il a fait ça entre 2012 et 2016, il est tellement visionnaire sur la façon dont les médias sont un peu partis dans la facilité, notamment avec les, et ils parlent de fake news, tu vois, alors que le terme n'existait même pas. Enfin, ils parlent pas de fake news, mais ils parlent de fake news. J'aurais adoré qu'il existe, enfin que la série existe encore pour voir son traitement de l'élection de Trump, tu vois, par exemple.
À fond.
Bon, voilà. Mais la série a été annulée, mais l'un des trucs cool, c'est que, et c'est une série HBO, c'est que HBO lui a laissé quand même la possibilité de faire une fin. Donc la série est finie, quoi.
Mais comment? Parce que donc ils ont avant de produire la saison 3, HBO avait dit que ce sera la dernière saison.
Oui, je crois que ça s'est passé comme ça.
Ok. J'étais avant dernier épisode, il y a une intrigue, non, etc. Non. Dernier épisode, ok.
Non, tu sens vraiment que, effectivement, comme dit Koneko, en vrai, la fin est super, elle n'est pas du tout bâclée. Et je suis mille fois d'accord avec toi, c'est que pour une série qui se termine, la saison 3 est beaucoup plus courte, elle fait que 6 ou 7 épisodes, je pense. En vrai, ils ont réussi à tout bien emballer et c'est vraiment très cool. Donc, écoute, c'est notamment avec Jeff Daniels.
Ok.
Tu vois qui c'est ?
Non.
C'est le copain de Jim Carrey dans Dumb and Dumber.
Écoute, je suis nul.
Non plus, t'as pas Dumb and Dumber.
Mais non, mais j'ai aucun classique, classique.
En tout cas, je sais pas. Donc quoi, il a joué dans plein d'autres films, Jeff Daniels, mais il joue un rôle de star de la télé. Qui est brillant et en même temps, lui, il est républicain, tu vois, et il dit qu'il a honte d'être républicain parce que notamment il y a le Tea Party qui est en train de se développer à l'époque, qui est un peu le cancer de la droite républicaine aux US. Et effectivement, comme dit Koneko, ça parle d'un sujet très important dans la dernière saison, et l'influence que ça a sur le contenu des médias. Je suis d'accord avec toi, mais no spoilers, d'accord.
pas de spoilers. Ouais, non. Mais c'est intéressant. Mais c'est clair, il y a... Tu vois, j'aimerais bien voir des séries comme ça en France aussi, parce qu'on voit, il y a Baron Noir, oui, qui était un peu le House of Cards français. J'avais envie de faire un... Tu sais, il y avait je sais pas si t'as vu ce film avec Dubosc. Aucune ressemblance, je sais pas quoi.
Ah, où il joue une sorte de Michel de Rucker, là, c'est
ouais,
ça?
Ouais, toute ressemblance...
Je l'ai pas vu.
Un de la housse plutôt, tu sais.
Ok.
Toute ressemblance. Bah, écoute, je sais pas. Ça a l'air d'être un peu ennuyé malheureusement, mais ce serait cool, hein, en effet, d'avoir ça pour tous les journalistes en herbe et tout. Moi, j'adore me plonger. Tu vois, c'est cool. C'est comme quand tu regardes Grey's Anatomy, t'as envie de te lancer dans 7 ans de médecine. Tu fais House of Cards, tu regardes House of Cards, t'as envie de faire Harvard pour diriger les States. C'est génial, ce genre de série qui te donne un peu cette vocation-là, tellement c'est immersif.
Mais écoute, va voir The Newsroom et puis tu m'en parleras, tu m'en donneras des nouvelles.
Avec
plaisir. Maybe, donne-lui une seconde chance, quoi.
Ouais, non, bien sûr. Écoute, non, c'est clair.
Il y avait d'autres choses dont tu voulais parler. Je sais qu'il y avait d'autres choses dont tu voulais parler.
Bah... En plus, ça fait vite fait un lien. Ça fait un petit lien.
Maybe.
Parce que, tu vois, on part sur le journalisme. Oula.
Le
journalisme lent. Excuse-moi, il est 20h38. Le journalisme lent, puis plus d'œuvres de séries, etc. avec The Newsroom. Mais oui, moi, je trouvais ça intéressant aussi de parler de la manière, en fait, de l'avenir des médias. Et le fait est que toi, aujourd'hui... comment expliquer ? C'est avoir cette perspective où tu as vu comment lancer un média en ligne sur Internet avec Mad pendant 15 ans, c'est ça ? J'ai pas envie de dire 15 ans pile. Et puis ce qui se fait aujourd'hui, on en avait parlé d'ailleurs, on avait parlé quasiment exclusivement de ça quand on s'était rencontrés et je t'avais posé plein de questions sur tout ça. Et puis aussi, peut-être la place de l'audio, la place du podcast, parce que tous les deux, mais toi encore plus, tu as cette place importante dans le podcast français. Comment il y a des nouveaux acteurs qui peuvent émerger. Est-ce que demain, s'il fallait recréer un média, comment... le mec, il pose une question hyper compliquée.
T'as vu ma tête ?
Hyper... tu sais, presque un truc de vie, une question existentielle. Non, mais moi, je me suis posé la question... Demain, s'il fallait créer un média, est-ce que l'audio devrait prendre... Qu'est-ce qu'il faudrait et qu'est-ce qu'il ne faudrait pas ? Et moi, je pense que cette histoire, déjà sur le fond, de laisser plus la chance aux gens de se créer leur propre opinion et pas nécessairement d'avoir un truc hyper frontal, que ce soit de droite, de gauche, progressiste, et essayer de laisser un peu plus la place aux... Et c'est ce qui se fait pas mal aussi avec les témoignages. Et vous y avez beaucoup ça aussi, dans le fond, avec Mad. C'est, j'ai dit dans le fond, c'est mon côté très, très québécois. Dans le fond, là, c'est ce que vous y avec, avec Mad. Non, mais c'est ce que vous y avec Mad. C'est-à-dire, tu fais, parfois, et ce qui s'est fait avec Fresh ou avec d'autres, tu laisses la place à quelqu'un qui a vraiment vécu la chose. Le journalisme est complètement en retrait. Ces questions sont même coupées au son par la suite. Et juste laisser la personne dérouler son histoire et laisser l'audience faire son truc. Il y a aussi la place de l'audio aussi, parce que le podcast qui prend de plus en plus de place,
Mais je pense que, pour répondre à ta question, je pense que c'est impossible aujourd'hui de relancer un média comme je l'ai lancé sur Mademoiselle il y a 15 ans. Parce que, en fait, j'étais tout seul, j'ai réussi à hacker, entre guillemets, sans jamais le hacker illégalement, si tu veux, mais j'ai réussi à hacker Google, parce qu'à l'époque, notamment par les marques de mode, en fait, il y avait quasiment, les marques de mode étaient à la ramasse sur Internet. Donc, en gros, en 2005, il n'y avait pas du tout de site Internet pour H&M, pour Zara, etc., alors qu'en fait, il y avait une vraie demande. Et c'est ce qui a permis, en fait, à la base, de faire rentrer un maximum de... En plus, pour moi, c'était tout bénef parce que je voulais faire rentrer des meufs sur Mademoiselle. Et a priori, sans vouloir trop discriminer, mais ma logique, c'était plutôt, bah, OK, les gens qui s'intéressent plutôt à H&M et à Zara, c'est plutôt des meufs a priori jeunes qui sont dans le public de MAD. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai réussi à faire rentrer les premières audiences et à monter assez rapidement en audience. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Ce que tu es en train de dire, c'est que devenir... Je pense que c'est compliqué aujourd'hui de monter un média qui est nuancé, où tu viens dire, bah, c'est intéressant d'avoir les deux aspects, les deux côtés, etc. C'est d'autant plus compliqué que la société est de plus en plus polarisée, je trouve, et qu'en fait, les médias ne sont que le reflet de ce qu'est la société actuellement. Et bah, la preuve, en fait, les médias qui marchent le mieux, entre guillemets, c'est les médias comme Mediapart, où ils vont avec une ligne qui est clairement définie et qui est une ligne qui joue le contre-pouvoir, en fait. Et ça c'est très bien, hein, c'est top. Mais je sais pas aujourd'hui si tu pourrais remonter, si tu pourrais monter un média qui soit dans la nuance, en fait. C'est une vraie vraie question. Je pense que, tu vois, ce qu'a réussi à faire Society, c'est ils ont réussi, bah, justement, à faire des reportages un peu plus longs, à aller chercher des sujets avec un angle un peu différent, d'aller le carton qu'ils ont fait avec Xavier Dupont de Ligonnès cet été, qui change la vie du journal à tout jamais, mais c'est une enquête de 4 ans, donc là, pour le coup, ils sont dans un vrai slow journalisme, comme tu disais, mais c'est sur un sujet qui est du fait divers de base, qui passionne les Français, où il y a une passion pour cette histoire tellement tellement tordue et tellement chelou, que ils ont réussi à en faire quelque chose qui est génial, quoi. Mais à la base, c'est aussi parce que c'est le sujet de Xavier Dupont de Ligonnès qui passionne le monde, quoi, depuis bientôt 10 ans, quoi.
Ouais. Et tant sur les sujets que sur les journalistes, tu as cet aspect hyper incarné aussi, je trouve, en 2020, du journaliste avec... Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, moi, je me suis toujours dit, tu vois, en créant, en essayant de passer de Facebook, en faisant mes vidéos perso, où je me suis dit, non, il faut que... J'aimerais bien, je suis en école de commerce, j'aimerais bien monter un média, j'aimerais avoir une équipe, j'aimerais avoir un logo. En fait, le logo, je crois que c'est instaurer un logo qui nous a tués. Parce que et qu'en fait le meilleur logo pour un média aujourd'hui en 2020 et même en 2018, c'est un visage, c'est d'avoir un Hugo Clément. D'ailleurs, Hugo Clément qui a permis à Combini vraiment de pleinement se développer et de diversifier ses contenus, parce que sinon c'était globalement que du contenu pop, et qui arrivait en donnant cette crédibilité là, ce journalisme incarné. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui avec Sur le Front. Il y a également un autre Hugo sur Internet qui le fait très bien. Et même aux États-Unis, il y a, en France, on l'a un peu moins, mais des journalistes qui se rémunèrent uniquement grâce à leur blog, grâce à des médiums. Est-ce qu'il y a encore de la place finalement pour une vraie structure de médias? Je sais pas.
ne m'attends pas, n'attends pas de réponse de ma part sur ce sujet.
D'accord.
Non, mais en vrai, j'en sais strictement rien. Moi, je pense qu'il faut aller chercher des marchés de niche aujourd'hui. Et il faut aller chercher des toutes petites niches où t'as typiquement et puis c'est pareil pour les podcasts, en fait. Je pense que l'un des trucs qui fait que Histoire de Daron marche, c'est que je vais parler de la paternité, en fait, et je parle de rien d'autre. Mais en revanche, c'est des vraies questions aujourd'hui. Je crois que le marché des médias a tellement changé que je suis d'accord avec toi sur l'aspect il faut mettre des têtes. Et d'un autre côté, c'est pas en comment dire quand t'es un média aujourd'hui et que tu mets en avant des têtes, bah en fait forcément les têtes elles partent. Et l'un des trucs compliqués, c'est de trouver de nouvelles têtes. Donc moi c'est le truc dont je suis assez fier sur Mademoiselle, c'est que pendant 15 ans j'ai réussi à trouver des têtes qui se sont renouvelées pendant 15 ans, des nouvelles têtes. Il y avait d'anciennes têtes qui partaient, qui vivaient leur vie de leur côté, qui continuent à vivre leur vie aujourd'hui et qui ont été propulsées quelque part grâce à Mademoiselle. Et t'en avais d'autres qui arrivaient et qui incarnaient le magazine tout en gardant une forme, en amenant un peu leur pierre, tout en gardant une forme de continuité. Mais c'est un énorme challenge managérial et c'est un énorme risque aussi pour la boîte et pour le média, quoi. Donc voilà, un Hugo qui décrypte dit apaisant, bah oui par exemple, voilà.
Par exemple. Mais oui, non c'est vrai, c'est tout ça à la fois, mais il y a ouais, ce côté... j'allais dire une phrase, mais c'était peut-être plus pour meubler que pour dire
quelque phrase, chose. Vas-y, dis une phrase si...
Non mais il y avait... Oui, c'est vrai que j'avais complètement oublié, mais vous avec Matt, vous étiez vraiment un des premiers médias à avoir ce côté... influenceur, enfin ouais. dans ce qui était ouais, l'influence pas, ouais. avant, et puis
mais c'était pas des
à la fois journaliste.
Ouais, c'est ça, mais c'était pas des influenceuses ou c'était pas des influenceurs, c'était juste des têtes qu'on mettait en avant sur Mademoiselle. Et en fait, c'était ouais. marrant parce qu'il y a un moment donné où dans le marché publicitaire, les gens nous disaient mais nous on veut des influenceurs et vous avez pas d'influenceurs, et on leur disait mais si en fait nos propres équipes en fait de rédac, elles sont influenceuses quelque part parce qu'elles ont un pouvoir de recommandation qui est énorme par rapport au lectorat. Donc c'est marrant, c'est un peu ça sans doute. On a inventé l'influence avant l'influence.
maigre élève. C'est génial, c'est extraordinaire. C'est ouais.
Bon, mon bon Hugo, j'allais dire n'importe quoi, je vois Hugo qui est dans cette... Oh là là, le lapsus, pas du tout. Mon bon Gaspard, on a un peu fait le tour.
Ouais, exact. Merci beaucoup pour ton invite, Fab. C'était trop cool. Je suis très content de l'avoir fait, d'avoir donné Marocco. J'invite les gens d'ailleurs à lire et à faire vivre cette culture, puisqu'apparemment, enfin, c'est un sujet plus que d'actualité aujourd'hui,
ouais.
Surtout à l'approche des fêtes. C'est quoi? Il y a eu ce truc, sauver la culture, sauvons la culture, consommons culture, je sais plus. Mais il y a un slogan actuellement qui est donc je suis content.
Et puis d'aller en librairie aussi.
À fond.
Si vous avez un petit libraire dans le coin, c'est l'occasion ou jamais, c'est le moment ou jamais de le faire taffer, quoi. C'est plutôt
exact.
Cool.
À fond.
En tout cas, un grand merci à toi. Je vous remets, donc si ça vous intéresse, en fait, c'est où l'endroit où on peut aller te voir? Et
franchement, aujourd'hui, mon hub. C'est Instagram.
C'est où ton hub?
Mon hub, c'est Instagram. Gaspard G. En vrai, je suis trop.
Gaspard_G.
_G. Je suis. Ça va, tu tapes Gaspard G. Je pense il y a ma tronche. Et puis en podcast, aujourd'hui, c'est ça. C'est absurde et acerbe. Mais Gaspard G, pareil, normalement, sur les plateformes de podcast, ça fit bien.
Bon, en tout cas, un grand merci à toi d'avoir été parmi nous. Et puis, je l'ai pas encore mis en ligne, il n'est pas encore tout à fait terminé, mais le podcast de replay va être disponible. Et si vous voulez, si vous êtes en ligne là, vous pouvez rejoindre le Discord de la commu de FabFlow. Je sais pas comment on va les appeler, mais en tapant la commande. Point d'exclamation Discord, voilà. Tiens, merci beaucoup. Gaspard et Fab nous dit Koneko. Poki dit une belle découverte ce soir. Voilà, t'as trouvé au moins un ou une nouvelle fanzouz, quoi. Un grand merci.
Génial.
À toi.
Merci, Fab.
À plus tard, salut.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.